Vous écoutez bien Radio France Internationale, midi et demi en temps universel. Il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Anne et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce midi, après Bamako et Niamey, John Dramani Mahama, attendu à Ouagadougou aujourd'hui. Clap de fin de la tournée du président du Ghana dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Objectif au Burkina aujourd'hui, faire un tour d'horizon de la coopération. Peser ensemble sur le processus électoral. En Côte d'Ivoire, une partie de l'opposition se rassemble sous une nouvelle plateforme aujourd'hui. 15 formations politiques sont de la partie, mais une manque à l'appel. Le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo. La guerre dans l'est de la RDC et l'AFC M23 qui a pris le contrôle de Nyabiondo, localité du territoire de Massissi à une centaine de kilomètres de Goma. On fait un point complet avec Passion Ligodi. Au sommaire également, reportage au Sénégal où 1300 bovins viennent d'être remis au ministère de l'Agriculture. Objectif, relancer la production de lait. Et puis cette question, jusqu'où ira la crise politico-militaire au Soudan du Sud après des arrestations de proches de Riek Machar et des combats ces dernières semaines dans le Haut-Nil? On posera la question à notre invité, Emmanuel Veuillet, spécialiste du Soudan du Sud. Mais avant de développer ces titres, on part pour le Rwanda pour évoquer une affaire qui a fait grand bruit dans le pays. L'ancien organisateur de Miss Rwanda avait été condamné à 5 ans de prison pour viol et sollicitation sexuelle sur d'anciennes candidates. Et Lucie Mouillot, il vient d'être retrouvé et arrêté aux États-Unis.
Le service de l'immigration et des douanes américaines affirme avoir arrêté Dieudonné Ishimwe, également connu sous son nom de scène Prince Kid, à Fort Worth au Texas, où l'homme de 38 ans résidait sans autorisation. L'ancien organisateur de Miss Rwanda avait pourtant été condamné en octobre 2023, en son absence, par la haute cour de Kigali pour viol et sollicitation de faveurs sexuelles, des accusations portées dès 2022 par d'anciennes candidates du concours de beauté. Les autorités américaines affirment que Dieudonné Ishimwe est entré légalement aux États-Unis sans préciser la date de son arrivée. Elles affirment qu'il a ensuite violé les conditions de son admission et que le procureur de la République du Rwanda a émis un mandat d'arrêt contre lui pour viol en octobre 2024, soit un an après sa condamnation. Dieudonné Ishimwe reste en détention dans l'attente de la procédure d'expulsion vers son pays d'origine. Depuis l'éclatement de l'affaire en 2022, aucune nouvelle édition du concours de Miss Rwanda n'a été organisé. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Convaincre le Mali, le Burkina et le Niger de renouer avec la CEDEAO, c'est la mission que s'est fixée le président du Ghana. Après Bamako et Niamey, ce week-end, John Dramani Mahama est attendu à Ouagadougou aujourd'hui. Dernière étape de sa tournée dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour.
Que sait-on des enjeux de cette visite?
Faire un tour d'horizon de la coopération. Voilà comment la présidence du Burkina Faso présente cette visite dans un communiqué diffusé ce dimanche. Annoncé au menu, comme à Niamey et à Bamako, la lutte contre le terrorisme et le développement des relations économiques. Et en toile de fond, donc, le cœur de ces voyages officiels de John Dramani Mahama, la volonté annoncée de réintégrer les trois États de l'AES au sein de la CEDEAO. Boucler cette tournée régionale à Ouagadougou, c'est un choix stratégique et une marque d'amitié du président ghanéen. Car c'est avec Ibrahim Traoré que s'est enclenché ce processus diplomatique. Invité, comme ses homologues du Mali et du Niger, le capitaine burkinabé est le seul à avoir fait le déplacement à Accra le 7 janvier dernier pour l'investiture de John Dramani Mahama, qui espère donc sans doute des avancées concrètes à l'issue de ce déplacement dans la capitale du Burkina Faso, car pour le moment les positions semblent figées à Bamako. Alors qu'Assimi Goïta ne s'est pas exprimé, le chef de l'État ghanéen a affirmé qu'il était encore possible de trouver un terrain d'entente à Niamey. Le communiqué diffusé par la junte la nuit dernière ne fait aucune référence à la CEDEAO. Nouvelle posture diplomatique ce matin, alors qu'il arrive à Ouagadougou, John Dramani Mahama a indiqué sur les réseaux sociaux de la présidence avoir évoqué avec Abdourahmane Tiani à Niamey la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CEDEAO.
Guillaume Thibault en direct dans Afrique Midi. L'actualité politique en Côte d'Ivoire et une partie de l'opposition qui est réunie depuis ce matin. 15 partis lancent une coalition avant la présidentielle du 25 octobre prochain. Dans la coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire, c'est son nom. On retrouve pêle-mêle le PDCI, le mouvement des générations capables ou encore le COGEP. Mais alors, pourquoi faire? Réponse à Abidjan avec Abdoulaziz Diallo.
Cette nouvelle plateforme veut peser sur le processus électoral. Parmi ses principales revendications, la révision de la liste électorale avant la présidentielle, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et l'audit de la liste électorale. L'objectif est de se battre pour obtenir des réformes électorales qui garantissent une élection transparente, crédible et sans violence, explique Dominique Traoré, vice-président du MGC. Cette coalition ira-t-elle jusqu'à désigner un candidat unique pour la présidentielle ? Les modalités de participation seront débattues au sein de la plateforme, répond Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI. Cependant, une absence de taille est à noter, celle du PPACI. Selon son président exécutif, Sébastien Danodjedje, le parti travaille sur l'appel à l'union de l'opposition lancé par Laurent Gbagbo. Preuve que l'opposition n'est pas homogène, analyse le politologue Geoffroy Julien Kouao. Pour ce juriste, cette configuration ouvre la voie à une élection à trois blocs. Le RHDP d'un côté, le PPACI de l'autre et cette nouvelle coalition menée par le PDCI-RDA. Et il ajoute, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette triangulaire pourrait fragiliser le parti au pouvoir en cas de second tour. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
C'est un point de départ pour de nombreux migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. La Mauritanie a engagé ces derniers jours une campagne d'arrestation et d'expulsion de personnes en situation irrégulière. Plusieurs ONG lancent l'alerte. Magali Lagrange, cela suscite des tensions dans le pays. Dernier exemple en date, samedi, un incident a éclaté à la frontière avec le Mali.
Un poste de police a été pris pour cible samedi à Gogui par des personnes qui étaient sur le point de se faire expulser vers le Mali. Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, il a d'abord été attaqué à coups de pierre avant d'être incendié. Depuis plusieurs jours, des ONG alertent sur une campagne d'arrestation et d'expulsion de personnes en situation irrégulière en Mauritanie. Sur les réseaux sociaux, un membre de l'association SOS Esclaves appelle à ne pas arrêter les migrants dans des conditions inhumaines. Le porte-parole du gouvernement mauritanien s'est exprimé jeudi sur ce sujet, sans préciser le nombre de personnes concernées, Ousseyn Ould Medou évoque un travail de routine des services de sécurité qui concerne des personnes n'ayant pas régularisé leur titre de séjour. Elles sont refoulées, précise-t-il, par les postes frontières par lesquels elles sont entrées. Le porte-parole souligne le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre l'immigration clandestine. En fin de semaine, le ministère des Maliens établi à l'extérieur a réagi dans un communiqué. Selon le texte qui appelle au calme, l'arrivée de ressortissants malien au poste frontalier de Gogui est signalé depuis le 2 mars dernier.
Magali Lagrange, midi 37 en temps universel. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'AFC M23 poursuit son avancée dans l'est. Après 4 jours de combat contre l'armée congolaise et des groupes armés locaux, le mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda a pris le contrôle de Nyabiondo. C'est une localité du territoire de Masisi, à une centaine de kilomètres de Goma. Bonjour Patient Ligodi.
Bonjour Arthur.
Cette nouvelle percée ouvre désormais la voie vers Walikale, un territoire riche en ressources minières, renforçant ainsi la pression sur les forces armées congolaises.
La tension était déjà palpable depuis janvier dans cette zone. Ces 3 dernières semaines, au moins 4 civils ont été tués dans des affrontements de plus en plus proches des Masisi Centre tenus par l'AFC M23. Ces 3 derniers jours, les rebelles ont pris le dessus et consolident leur emprise territoriale. À partir des Nyabiondo, ils peuvent maintenant avancer vers Kachébéré sur la route provinciale numéro 529, un axe qui mène directement au Walikale Centre, un peu plus à l'ouest de Nyabiondo. Selon des experts de Walikale, il pourrait ensuite emprunter la route nationale numéro 3 qui mène à Kisangani. Il faut noter que la distance est longue, c'est environ 600 km de Nyabiondo. Pendant ces temps, dans le sud Kivu, le front de Kamanyola qui donne sur Uvira s'est stabilisé depuis 2 semaines. Uvira, où le gouvernement provincial du sud Kivu s'est replié après la chute de Bukavu, reste sous le contrôle des autorités congolaises. Entre-temps, les initiatives diplomatiques restent bloquées. Les processus de Nairobi et celui de Luanda, censé apporter une issue politique au conflit, sont point mort. Aucune date n'a été fixée pour leur reprise, alors que la situation militaire continue de se détériorer sur le terrain.
Précision signée Patient Ligodi. Et c'est justement pour fuir les violences et les combats dans l'est de la République démocratique du Congo que des dizaines de milliers de Congolais ont fui leur pays, direction le Burundi pour 60 000 d'entre eux. Les réfugiés sont principalement répartis entre la zone de Bujumbura et Rugombo, un énorme afflux de personnes à gérer pour les autorités sur place. Brigitte Mukanga-Eno est représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés au Burundi.
pour ceux qui sont arrivés autour de Bujumbura, c'était des gens qui venaient en véhicule et avec leurs biens avant que leur ville soit attaquée, profil plutôt urbain. Donc, il y avait même des fonctionnaires du gouvernement, des étudiants, des commerçants, etc. Mais par contre, pour ceux qui sont à Rugombo, essentiellement, nous avons beaucoup de personnes qui viennent des zones rurales, qui sont venues vraiment étant démunies parce que c'est des gens qui ont marché des kilomètres. Parmi eux, il y a des gens qui disent avoir déjà été déplacés à l'intérieur du Congo. Les autorités burundaises ont été très généreux en termes d'asile parce que ils ont les 60 000 qui viennent d'arriver, ils ont été automatiquement reconnus comme réfugiés par le Burundi. Nous avons un très grand nombre de femmes et des enfants, beaucoup d'enfants séparés, des enfants non accompagnés. Et le fait qu'ils sont dans un stade complètement ouvert actuellement, il y a un besoin énorme en termes d'abri. Nous avons passé des commandes pour avoir des tentes d'urgence, mais ce n'est pas suffisant pour le moment.
Propos recueillis par Amélie Tulet. 1300 bovins pour relancer la production de lait. Au Sénégal, des génisses et des taureaux européens sont arrivés par bateau il y a deux semaines avant d'être remis officiellement ce week-end au ministre de l'Agriculture. C'est la sixième opération du genre. Objectif, Gwendal Lavina, encourager la création d'une filière laitière dans le pays. Le Sénégal qui dépense tous les ans 70 milliards de francs CFA pour importer 400 millions de litres de lait.
Chaque année, le Sénégal importe 70% de ses besoins en lait, bien souvent en poudre. En accueillant ses 1250 génisses gestantes, 27 taureaux et 30 reproductrices, les autorités espèrent changer cela. Oumar Fall est le secrétaire général de l'ANIPEL, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, qui organise ses importations de bêtes subventionnées par l'État.
Nous avons une partie de notre pays où on peut faire de l'élevage extensif, où les animaux européens plus être élevés sans pour autant qu'ils souffrent. Nous voulons aller vite, c'est pourquoi nous importons des animaux des races laitières, mais l'essentiel du travail devra se faire avec l'amélioration génétique en croisant nos animaux.
Selon l'ANIPEL, la démarche a permis à des centaines d'élevages de se développer, mais pour d'autres acteurs, cela ne profite pas à tout le monde. Mamadou Ba, installé à Thiès, est superviseur du pôle ouest de l'APES, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane.
Ce projet-là, c'est destiné à une élite, à des gens qui veulent faire de l'agro-business. Alors que nous pensons que le cœur de l'élevage vient du pastoralisme. Mais la grande majorité des éleveurs n'ont même pas les moyens d'acquérir une vache, parce qu'une vache qui coûte 1,5 million, 2 millions, ce n'est pas à la portée de l'éleveur moins.
Depuis 2017, le Sénégal a importé près de 6800 génisses de races laitières pour 13 milliards de francs CFA. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
La guerre au Soudan et des nouveaux tirs d'artillerie qui ont visé hier la ville d'El Obeid. Tirs imputés aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon des sources médicales sur place, il y a 9 morts et au moins 21 blessés. Cette ville du centre du pays était sous siège des FSR pendant près de 2 ans, siège levé le mois dernier par l'armée. Le Soudan du Sud, lui, s'enfonce toujours dans la crise politico-militaire. On vous en a parlé ces derniers jours sur RFI. Depuis mi-février, les combats ont repris entre l'armée fidèle au président Salva Kiir d'un côté et les forces alliées au vice-président Riek Machar de l'autre. Les combats se concentrent dans l'état du Haut-Nil. Des proches de Riek Machar ont aussi été arrêtés. Autant de développement qui menace l'équilibre précaire qui prévaut depuis l'accord de paix de 2018, accord qui avait mis fin à des années de guerre civile. Alors Florence Maurice, comment expliquer une telle résurgence des violences ?
L'accord de 2018 a toujours été précaire, jamais totalement appliqué. Il n'a pas permis d'unifier l'armée, ni d'apaiser la rivalité entre Riek Machar et Salva Kiir. Les tensions entre les deux hommes sont restées constantes. Jusqu'à présent, elles n'ont pas dégénéré en affrontements à grande échelle, mais la menace n'a jamais cessé. À cela, il faut ajouter en toile de fond l'enjeu de la succession de Salva Kiir. À 73 ans, il sait son avenir incertain et son siège convoité à la fois par l'opposition et dans les rangs du pouvoir. D'où la purge qu'il mène depuis des mois, y compris au sein de l'élite militaire de son camp, pour assurer la sécurité physique et financière de son clan, quel que soit le scénario lorsqu'il quittera le pouvoir. Pour l'International Crisis Group, la crise actuelle est également une conséquence de la guerre au Soudan voisin. Celle-ci a privé Djouba de ses revenus pétroliers, ce qui a fragilisé Salva Kiir, dont le pouvoir repose en partie sur ses réseaux de clientélisme. Certains craignent aussi que les belligérants soudanais n'instrumentalisent les fractures politiques et ethniques de leurs voisins du Sud pour servir leurs propres intérêts.
Florence Maurice et les racines de la crise au Soudan du Sud, on y revient. Dans quelques minutes, la chercheuse Emmanuelle Veuillet sera notre invitée. En bref, le Mozambique frappé depuis ce matin par le cyclone Jude, le troisième de la saison à toucher terre dans le pays. Des rafales à près de 200 km/h ont été enregistrées ce matin. Le cyclone devrait s'affaiblir dans les prochains jours et circuler à proximité de la frontière entre le Mozambique et le Malawi. Du sport, et cette question: qui sera le prochain président du Comité international olympique? Réponse dans 10 jours très exactement. 7 candidats briguent la succession de Thomas Bach. Parmi eux, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Jr., fils de l'ancien patron du CIO de 1980 à 2001. Il souhaite notamment encourager de nouveaux pays à organiser les JO et notamment les pays africains. Et pour cela, il est prêt à demander aux fédérations internationales de s'adapter.
J'essaie tout le temps de parler d'universalité. Et un des aspects de cette universalité, c'est que nous devons nous assurer qu'il n'y ait aucune partie du monde qui soit exclue de la possibilité d'amener les bénéfices de l'organisation des Jeux Olympiques à leur communauté. Quand nous aurons des projets qui ont du sens et qui sont réalisables, nous devrons supprimer toutes les contraintes et tous les désavantages causés, par exemple, par le climat, qui pourrait affecter une part importante de votre continent. Donc, nous devrons nous assurer que nous sommes prêts à modifier le calendrier sportif mondial de l'année olympique si nécessaire. Si une candidature vient d'Afrique, soyez sûr qu'elle sera en compétition équitable avec d'autres projets et qu'elle ne sera pas désavantagée à cause du climat.
Juan Antonio Samaranch Jr. devant les journalistes de l'Association internationale de la presse sportive. Rendez-vous donc le 20 mars pour connaître le prochain président du CIO. On part pour le Cameroun avant de refermer ce journal Yaoundé, où se tient depuis ce week-end une exposition du photographe camerounais Dessidanga. Ça se passe dans la galerie Abali, c'est dans le centre-ville de Yaoundé. Les visiteurs peuvent découvrir des photos qui racontent le quotidien des populations du nord du pays entre crise sécuritaire et climatique, mais pas que. Richard Onanena s'est rendu sur place pour RFI.
Je passe avec la caméra et j'essaye. Je te prends la photo.
Avec son appareil, Dessidanga peint une réalité colorée du Nord Cameroun. Ses photos ensoleillées capturent la générosité des populations locales malgré la rudesse de la vie.
Les insécurités environnementales, les insécurités physiques même dans le conflit et tout, on le vit au quotidien, mais tu vois toujours te rendre compte que le sourire ne quitte jamais ces gens. Et finalement, ça a créé une sorte de générosité et d'humanité même chez les peuples du Nord, parce que c'est des gens qui ont le sourire facile, qui ont le djabama, comme on appelle la bienvenue facile.
Une population résiliente, même si le photographe n'aime pas ce mot. C'est pourtant le titre donné à un cliché qui captive Leslie Ngonzo. Cette mère de famille vient du village Touro, près du Nigeria, où sévit Boko Haram.
Voir une femme qui a accepté, subir cette souffrance-là, en voulant justement rester chez elle et s'assumer, ça prouve en fait qu'elle se sent à l'aise où elle est, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve.
En dehors des portraits de personnes du Nord Cameroun, l'exposition propose de vivre des photos d'événements culturels comme la danse initiatique du peuple Faro ou encore la lutte des guerriers Massa, des images très expressives selon Audrin Mouillot, photographe.
On ressent vraiment qu'il cherche à raconter une histoire dans ces images au lieu de mettre un accent sur la retouche ou autre chose comme ça. Voir des travaux comme ça qui expriment vraiment nos réalités sur le terrain, ça fait vraiment plaisir.
L'exposition court jusqu'au 20 avril prochain. Richard Audanier, Yaoundé, RFI.
Yaoundé où il est 13h48, midi 48 en temps universel. Voilà pour le journal et on fait le point avec vous Anne Cantner sur les principaux titres de l'actualité internationale du jour.
La fin de l'opération militaire dans l'ouest de la Syrie. Les autorités parlent de succès après ces combats meurtriers contre des fidèles à l'ancien régime Assad. Des milices venues soutenir l'armée syrienne se sont livrées à des massacres contre la communauté alaouite. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de plus d'un millier de morts, dont plusieurs centaines de civils. L'autorité palestinienne dénonce une escalade du génocide après la décision d'Israël de bloquer complètement l'approvisionnement en électricité à Gaza. L'Allemagne, de son côté, alerte sur le risque de pénurie alimentaire qu'entraîne cette décision. L'Ukraine veut la paix, déclaration de son président aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, qui rencontre tout à l'heure le prince héritier d'Arabie Saoudite, avant des discussions cruciales avec les États-Unis demain, toujours dans la capitale saoudienne. Et puis à propos de ce conflit encore, Londres annonce une nouvelle réunion vidéo samedi avec les pays prêts à aider l'Ukraine. Et dans ce contexte, la Russie décide d'expulser 2 diplomates britanniques. Ils ont 2 semaines pour quitter Moscou. On en parlait il y a quelques minutes, le Soudan du Sud s'enfonce encore un peu plus dans la crise politico-militaire. Depuis mi-février, des combats opposent l'armée du président Salva Kiir d'un côté aux forces du vice-président Riek Machar de l'autre. Les combats s'accompagnent aussi depuis plusieurs jours d'arrestations de proches de Riek Machar. Autant de tensions qui font craindre pour la tenue de l'accord de paix signé en 2018. Vous en parlez, Arthur, avec votre invité.
Bonjour Emmanuel Veuillet.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes post-doctorante en sociologie politique en post-doctorat à l'EHESS et l'Institut des mondes africains. Vendredi, pour la première fois depuis le début de la crise dans le Haut-Nil, Salva Kiir s'est exprimé devant la presse. Le président a appelé au calme. Il a dit « Je ne replongerai jamais le Soudan du Sud dans la guerre ». Il a aussi promis de rester sur le chemin de la paix. Ce chemin de la paix, il est menacé aujourd'hui ?
Il est clairement menacé et directement menacé, je dirais, par Kiir et le gouvernement de Kiir en premier lieu. C'est-à-dire que la succession des incidents qui sont survenus là depuis maintenant ce dernier mois a gravement fait monter les tensions au sein du pays et les tensions donc entre les différentes forces politiques et militaires parties prenantes à l'accord de paix, avec une politique du côté du gouvernement qui n'est pas vraiment à l'apaisement. Et c'est pour ça que cette adresse à la nation qui est intervenue vendredi a permis à beaucoup de souffler. Je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un appel à l'apaisement, notamment parce que cette adresse à la nation faisait suite à l'assassinat du général Madjour, qui était le commandant en charge des troupes gouvernementales à Nasser. Et depuis une semaine, il y avait des affrontements armés entre les groupes gouvernementale et la White Army qui a son propre commandement, qui n'est pas sous la commande de Riek Machar et du SPLM-IO comme le gouvernement le décrit, mais qui de fait était allié pendant la guerre de 2013-2018 aux forces IO, mais qui sont indépendantes et ont leur propre agenda et commande.
Justement, cette guerre de 2013 à 2018, elle a été, on y a mis fin avec un accord de paix en 2018 signé entre Salva Kiir et Riek Machar, mais depuis 2018, l'application, la mise en œuvre de cet accord de paix, elle est toujours précaire ?
Elle est extrêmement précaire et elle est remise en cause jour après jour par la non-application, la non-exécution des provisions même de base. Et on voit qu'aujourd'hui, énormément des incidents qui interviennent sont la conséquence de la non-application de l'accord de paix. La première des provisions aurait été de unifier les forces armées des différentes parties prenantes de l'accord.
Il y a donc ces tensions politico-militaires avec, on n'en a pas parlé, mais aussi des arrestations de proches de Riek Machar. Il y a ces tensions, il y a aussi la guerre au Soudan voisin. Comment est-ce que la guerre de généraux qui s'y déroule pourrait avoir des conséquences sur la situation politico-militaire au Soudan du Sud ?
Alors, elle en a déjà, et depuis, en fait, dès le début et le déclenchement de la guerre en 2023 au Soudan, très vite, la frontière commune a été une zone d'échange et de flux, et notamment d'armes et de munitions. Il y a eu aussi des troupes qui sont parties du côté soudanais, soutenir à la fois les forces armées de Al-Burhan, mais aussi les forces de Hemeti. Le conflit au Soudan étant très cyniquement aussi une opportunité donc pour les forces armées sud-soudanaises d'obtenir donc des munitions, de l'armement et un soutien matériel.
Et il y a aussi des intérêts du Soudan du Sud au Soudan, puisqu'il y a un pipeline qui relie les deux pays, qui relie le Soudan du Sud jusqu'à Port-Soudan. Et l'explosion de ce pipeline du côté de Khartoum a plongé le régime de Salva Kiir dans une crise financière.
Oui, qui est immense et qui vraiment impacte au jour le jour la population sud-soudanaise. Mais ce pipeline, cet intérêt du coup économique, va plutôt dans un sens d'apaisement où Kiir a tout intérêt à maintenir des bonnes relations avec les deux parties, étant donné que le pipeline passe par des territoires contrôlés par les RSF et que aboutit donc ensuite après Port Soudan, là où il y a une zone détenue par Al-Burhan. Donc l'intérêt du Soudan du Sud en soi, notamment pour des raisons économiques, serait de ne pas prendre parti dans le conflit au Soudan et de maintenir des liens avec les deux forces armées.
Il y a aussi des tensions ethniques entre deux communautés, la communauté Dinka et la communauté Nuer, c'est ça ?
Il y a actuellement tout un enjeu politique pour des figures du côté du gouvernement, pardon, pour pouvoir en fait essayer de narrer ces tensions et ces affrontements comme un affrontement entre Nuer et Dinka. Aujourd'hui, ce qui se passe en Upper Nile n'est pas du tout un affrontement ethnique. Ce sont des forces armées organisées qui ont été victimes d'une attaque de la part des forces du gouvernement qui, sous l'excuse de vouloir mener un désarmement, s'en est pris à leurs forces, à leurs positions et notamment à des civils au sein de la ville de Nasser. La lecture ethnique est vraiment quelque chose que actuellement on sent dans la société sud-soudanaise et en train de faire son travail, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les forces qui vont épouser ce type de lecture et ce type de cadrage et qui va nourrir de fait beaucoup plus de violence et qui va aussi permettre à certaines figures politiques de mobiliser derrière eux. Mais il y a aussi tout plein de forces politiques et aussi dans la société civile qui repoussent vraiment très fortement ce cadrage. Et on voit qu'il y a plein de vidéos virales aussi sur TikTok et Facebook pour pallier, en tout cas contester et opposer ce type de cadrage.
Une dernière question, Emmanuel Veuillet, avant de vous quitter. Il y a eu des appels au dialogue, à la paix récemment, des appels qui viennent du président kényan, William Ruto, mais aussi de l'église sud-soudanaise. Est-ce que selon vous, la guerre, elle peut être encore évitée ?
La guerre peut toujours être évitée, mais ce sera vraiment une question de volonté politique de la part donc du gouvernement et des figures qui entourent le président Kiir. Je dirais que le devenir du Sud, notamment le passage à une guerre ou non, est vraiment dans leurs mains.
Merci Emmanuel Veuillet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes post-doctorante en sociologie politique, en post-doctorat à l'EHESS et l'Institut des mondes africains. Entretien à réécouter sur RFI.fr. Toute la semaine, Afrique Économie est en Guinée pour évoquer un méga projet qui doit transformer le pays. Les gisements de fer de Simandou, leur exploitation est prévue pour la fin de l'année, disent les autorités. Ce midi, on se penche sur le port minéralier. Il est situé sur la commune de Moribaya, c'est au sud de Conakry. À quelques kilomètres de là, les pêcheurs du village de Konimodia, eux, ne peuvent que constater les dégâts provoqués par le projet. Moins de poissons, filets détruits, autant d'effets néfastes qu'ils subissent depuis le début des travaux. RFI reportage, Alexis Bédu.
C'est l'affluence sur la place du village pour ce jour de recensement par la société minière Winning Consortium Simandou de toutes les personnes impactées par la construction du port. Parmi elles, Amara Kamara. Il est pêcheur. Sur la plage, il toise les dizaines de pirogues desséchées. La sienne n'a pas été mise à l'eau depuis des mois.
Nos zones de pêche sont déjà occupées par les bateaux de dragage. Il y a trop d'activités. Nos filets sont déchirés parfois et les poissons ont fui, ils sont partis plus loin. Avant, on avait besoin de 5 à 6 litres d'essence pour aller pêcher et revenir. Maintenant, ça va jusqu'à 30 litres. On doit aller en pleine mer, ça ne vaut pas le coup.
Le projet de port en eau profonde a été abandonné par les miniers et les autorités guinéennes. Le chargement des navires en minerais se fera donc en pleine mer via des barges qui feront la navette quotidiennement.
Là-bas, tu vois, le port en construction.
Alkali Bangoura est un habitant du village.
Vous voyez les bateaux ? C'est les bateaux qui font le dragage. Les cailloux, les déchets que ces bateaux-là prennent là-bas, jettent n'importe quel lieu maintenant sur la mer. Eux continuent toujours pour le progrès de leurs activités. Sans penser que ces gens-là aussi, c'est-à-dire les pêcheurs, eux aussi vivent de la pêche.
La baraque de fumaison du poisson est bien calme. D'habitude, les femmes y travaillent toute la journée, mais aujourd'hui, la pêche est bien maigre. Très peu de konkwe ou de bobo, des poissons qui d'habitude pullulent dans ces eaux, explique Maria Massouma.
Avant l'arrivée de la société minière, ça pêchait abondamment ici. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. La rentabilité à la revente est très mauvaise. Et puis nos champs ont aussi été inondés d'eau de mer lors des grandes marées.
Dans la zone, sans les champs et sans le poisson, il devient difficile de se nourrir. La compensation financière a déjà été faite par les sociétés minières. Elles poursuivent avec des dotations occasionnelles en sacs de riz et autres bidons d'huile. Un programme de restauration des moyens de subsistance qui permettrait aux pêcheurs d'obtenir des moteurs plus puissants pour leurs pirogues serait également en train d'être mis en place. Alexis Bédu, de retour de Konimodia, RFI.
Et c'est avec Afrique Echo que se referme Afrique Midi. Tout de suite, c'est le journal d'Haïti et des Amériques, sauf en Afrique lusophone et de l'Ouest où vous avez rendez-vous avec 30 minutes en portugais ou en full day.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Un choc à la tête peut causer des lésions au cerveau plus ou moins graves. On parle alors de traumatisme crânien. Quelles peuvent être les séquelles ?
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Cool, cool, cool.
Mercredi sur RFI.
Couleur tropicale. Claudiciard.
À la veille des 30 ans de Couleur Tropicale, nous vous convions à la libre antenne des auditeurs leaders, c'est-à-dire vous. Tous les sujets sont permis. Au cœur des échanges, les cultures afro. Envoyez dès maintenant votre sujet sur notre WhatsApp au 00 33 6 37 42 62 24. 00 33 6 37 42 62 24.
Couleur Tropicale.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.